Les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour ce 7e épisode d'Autour de moi. Je suis très content de vous retrouver. Je veux vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez. Et on reçoit un invité. Je suis très content de l'accueillir aujourd'hui. Richard Orlinski. Richard, comment ça va?
Bah, ça va, on est bien. Il fait bon, il fait beau. Bon. C'est génial.
Ça
est,
va?
On est au top.
T'as été bien accueilli?
Ah ouais, l'accueil est vraiment hors pair. Franchement, j'avais jamais eu un accueil comme ça. Des boissons à foison.
On t'a tout donné. Ouais, voilà.
Là, vous avez tout donné.
Richard, merci. Pour ceux qui te connaissent pas, alors je pense que beaucoup te connaissent tes œuvres, mais savent pas forcément qui se cache derrière. Richard est un artiste au sens large. La sculpture, on va en voir là quelques-unes à l'image que beaucoup connaissent, dont les Kong. Tu es l'artiste contemporain français le plus vendu au monde depuis maintenant près d'une décennie. Donc on connaissait tes sculptures avec ces fameux animaux. Il y a la musique aussi, on va en parler rapidement, avec des expériences live incroyables. Et puis surtout, c'est pour ça que je voulais t'accueillir, parce que tu te bats pour rendre l'art accessible à tous. Et moi, je milite avec toi pour ce combat. On va en parler juste après. Est-ce que t'es prêt?
Ah, moi, je suis toujours prêt.
Ok. Ok. Bah, si tout va bien, je rappelle rapidement le concept. Je t'ai demandé de me parler de trois personnes qui sont autour de toi, trois personnes qui ont compté dans ton parcours, pro comme perso. On va en parler tout de suite, mais juste avant, on a un petit générique qu'on lance tout de suite. Les amis, avant qu'on commence, cet épisode est sponsorisé par Senshort. Est-ce que vous voyez ce short là? Ou bien celui-ci. Pour les créateurs de contenu et les créateurs de podcasts comme moi, c'est un outil incroyable en 2024. On peut pas faire sans. Depuis le tout début d'Autour de moi, on utilise Senshort, avec qui on crée des shorts viraux grâce à l'intelligence artificielle. C'est français, c'est super puissant. Franchement, je vous le conseille. On a juste à importer l'épisode avec le lien YouTube. On choisit le meilleur passage. Et Senshort découpe tout seul au format short en gardant le visage au milieu. On a à disposition les sous-titres les plus tendances des réseaux sociaux, des emojis animés. On peut aussi ajouter des vidéos d'illustration, des zooms, la musique, tout pour rendre le short le plus captivant et tout ça en un clic. Et bien sûr, tu peux aussi importer tes vidéos si elles sont déjà au format vertical. Le premier plan est gratuit, alors allez tester ça. Et justement, grâce à Senshort, vous allez pouvoir gagner un hoodie designé par Richard Orlinski. Pour participer, c'est tout simple. Vous allez créer votre propre short à partir de cette interview. Vous choisissez le moment que vous avez le plus kiffé. Publiez-le sur les réseaux sociaux avec les hashtags « Autour de moi » et Senshort. Vous serez tiré au sort le 30 avril 2024 à 18h. Et voilà les amis, bonne chance à vous et maintenant, générique. Les amis, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un commentaire, à poser un petit like sous cette vidéo, à nous dire sous cette vidéo quelles questions vous aurez posées à ma place à Richard qui est sur notre fauteuil. Richard, qu'est-ce que tu as fait déjà avant de faire de l'art? Et qu'est-ce qui t'a amené vers ça?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de choses.
Ouais.
Voilà. J'ai fait beaucoup de choses parce que, si tu veux, l'art,
c'est large.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire de l'art quand j'avais 4 ans. Puisque, à l'âge de 4 ans, je sculptais des petits animaux en terre, glaise, qu'ensuite, on venait les cuire au four.
Okay.
Et surtout des éléphants. J'étais très populaire à 4 ans déjà pour les éléphants, que j'offrais, étant grand faillot, aux maîtresses, aux directrices, à qui voulaient bien entendre pour faire bien voir déjà à l'époque. Donc, c'était quelque chose que j'ai fait un long moment. À l'adolescence, j'ai plus ou moins arrêté parce que c'était pas très glamour à l'époque de faire de la poterie. C'était un peu comme faire du macramé, du tricot avec les gonzesses, c'était un peu compliqué.
Pas très sexy à la base.
Pas très sexy. Donc j'ai un peu cotesse.
Elle le regrette aujourd'hui.
Et j'ai repris, si tu veux, ça comme un hobby à l'âge de 20 ans, tu vois, j'ai repris ça voilà comme un hobby. Mais j'ai voulu me lancer dans l'art après mon bac. Mais pas que dans l'art sous toutes ses formes, puisque j'ai fait du théâtre, de la musique, cinéma, etc. Et j'ai compris que c'était très compliqué, et surtout j'avais pas de thunes, donc j'avais pas les moyens de mes ambitions, j'avais pas de famille qui pouvait me financer, fallait que je bouffe.
Ouais.
Et donc je me suis dit, bah, pour percer dans un métier artistique, c'est un peu quand même très compliqué, enfin les élus sont très peu, ou alors faut attendre longtemps, etc. Et j'avais pas le temps d'attendre, moi j'avais besoin de bouffer tous les jours. Donc j'ai continué un cursus universitaire. En parallèle, pour payer mes études, j'étais coursier, donc ça c'est mon premier métier. Je livrais des photos, tu vois. C'était marrant. Alors j'étais coursier pour une seule société, mais voilà. Et du coup ensuite, j'ai suivi un cursus normal, et puis j'ai fait plein d'activités. Enfin, j'ai fait tous les petits métiers. J'ai vendu du muguet. J'ai fait tout.
T'as tout fait.
J'ai créé des marques de t-shirts. Enfin, j'étais très 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 inventeur. J'ai vendu de la téléphonie à l'époque. J'en ai des cabines téléphoniques.
D'accord.
Tout ce qui était vendable, l'ancêtre. J'ai ils ont des télécopieurs à l'époque, maintenant ça n'existe plus, mais télécopieurs au début c'était des énormes trucs qui valaient une blinde et c'est une révolution, tu vois, voilà. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de la déco, j'ai fait tout ce que je trouvais à faire en tout cas.
Okay.
Et tardivement, après j'ai monté des boîtes qui fonctionnaient pas trop mal, et tardivement je me suis dit, enfin j'étais pas heureux dans le costume que je portais, et je me suis dit qu'il fallait que j'envoie tout péter, que je me recentre, je revienne à l'essentiel, ce que je voulais faire vraiment, c'était l'activité donc artistique, et j'ai commencé par la sculpture qui était mon premier amour.
Okay.
Et voilà, c'est venu effectivement tardivement, et quand j'ai pu le faire, et effectivement aux grandes dames de plein de personnes qui me disaient, qui m'ont découragé dans cette voie.
C'est ça, je t'ai déjà entendu dire qu'on voulait pas de toi dans ce milieu.
Ah bah ça c'est déjà ça c'est après, mais c'est ouais. Ceux qui voulaient pas que je le fasse déjà, c'était les gens qui m'entouraient.
Au tout début, ah oui, déjà ton entourage. Ça c'est intéressant,
t'as
ça.
T'as un métier, t'as une famille, t'as une voiture, t'as un appartement, t'as un machin, ouais. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à tout bazarder ce que tu faisais déjà pour te lancer dans un truc où t'es rien, où tu connais rien, etc.
On t'a pris pour un fou, quoi.
Ouais, pour un ouf complet. Et après, effectivement, tu as raison, tu veux rebondir. Effectivement, j'ai écrit un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. Et en fait, j'ai cassé les codes parce que j'ai pas le choix. Et que si j'ai pas eu besoin de casser les codes et que j'étais arrivé avec ma sculpture comme la tête enfarinée, me disant tiens, alors voilà, j'ai une sculpture. Est-ce qu'on peut exposer en galerie, s'il vous plaît, monsieur? Et qu'on m'avait dit oui, bah peut-être que je serais pas été comme ça. Sauf que c'était une levée de bouclier. On m'a dit que j'étais pas connu, que ça marchait pas. Donc bah faut bien, si t'es pas connu, faut bien démarrer un jour.
Bah oui.
Et alors on m'a proposé ils ont trouvé que ma première sculpture qui était un crocodile était très sympa. Enfin, le premier galerie que j'ai vu, il m'a dit ce qu'on a qu'à faire, c'est que toi t'es pas connu, j'ai un artiste qui est plus connu, il va le signer et on va faire un business ensemble, machin, etc.
Un ghost sculpteur,
ouais, exactement,
quoi.
Exactement, ghost sculpteur. Okay. Ah, ouais, enfin, bon, tu vois, j'ai pas fait tout ça pour ça. Quoi. Donc j'ai réfléchi, ça m'a un peu mis KO et j'ai dit bon, va falloir prendre le taureau par les cornes, falloir se servir un petit peu de ce que j'ai appris avant avec mon expérience dans le business et avoir une stratégie. Et donc j'ai pris un chemin qui s'appelle la voie 9 3/4 comme dans Harry Potter. Ouais. Et donc j'ai eu des idées, j'ai pratiqué le dumping, enfin j'ai plein de petites astuces qui ont fait que bon, ça a fonctionné, quoi, voilà.
J'ai une vraie question, pourquoi cette passion pour les animaux?
Alors ça c'est drôle parce que j'ai envie de te dire que je pourrais te poser la question à toi, parce qu'on est, quand on est né, quand on est enfant, on est tous passionnés par les animaux.
Il n'y
a aucun enfant qui te dit j'aime pas les animaux, ça existe pas.
C'est vrai.
Tu vois pour moi c'était le livre de la jungle, le zoo, toutes les références,
l'arche de Noé,
l'animal est tellement présent.
C'est vrai.
On est tous des grands enfants, en fait, c'est très présent. Après, on s'en approche ou pas, mais et puis dans les civilisations antiques, tu prends l'Égypte, tu prends la Grèce, tu prends Rome, enfin l'animal a toujours une grande présence. Et pourquoi l'animal a une grande présence? Parce que l'homme se croit très intelligent et quelque part l'animal c'est un être humain comme nous, mais qui est moins intelligent, et on a un côté très, on veut toujours l'apprivoiser, le dominer, etc. On a un rapport très particulier. C'est très psycho, ça. Mais on a un rapport très particulier. L'animal nous rassure.
C'est vrai.
Nous met sur un piédestal quelque part. Donc on a besoin des animaux. Voilà.
Ok. On va commencer avec la première personne dont t'as voulu nous parler. Moi, c'est vrai que je suis très loin de son domaine. Je suis un peu en train de le teaser. Et je savais pas que c'était un monstre. Enfin voilà. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, la personne dont tu nous parlais est une sommité dans son domaine. On va parler de Jean-Claude Biver.
Ouais.
Qui est Jean-Claude Biver?
Alors Jean-Claude Biver, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le dieu de l'horlogerie, si on a le droit d'employer ce terme. C'est un garçon qui a commencé par racheter la marque Blancpain avec ses économies de la Poste quand il avait travaillé à la Poste pendant ses vacances. Je crois que c'était à l'époque, il m'avait raconté, pour l'équivalent de 20 000 francs suisses.
Okay.
Alors attention, il a racheté une coquille parce que Blancpain n'était, il y avait rien, il y avait juste un nom. Donc il a racheté un nom. Et qui était une maison quand même qui avait fait ses armes, qui était une notoriété, et il l'a revendu quelques années après 60 millions d'euros. Et donc voilà, donc ça,
belle affaire.
Mais à part l'affaire, c'est novateur. Et ensuite, il a repris en charge une partie de Hublot, et donc il a racheté une partie avec ses économies, une partie d'Hublot, et après il a dirigé, monté la marque. Aujourd'hui, il l'a quitté il y a très peu de temps, mais c'est lui qui a fait la grandeur de cette marque, du groupe horloger d'ailleurs, pas que Hublot, de Hublot, Zenith, Tag Heuer, qu'il a dirigé en tant que président pendant près de 20 ou 25 ans, qui a été racheté par Bernard Arnault Velvelmatt, mais il a cohabité puisque...
C'est lui qui a fait grossir le bébé. Voilà,
et Bernard Arnault lui a laissé les commandes jusqu'à la fin de son règne, de son empire, on va dire. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui qui partage les mêmes valeurs que moi, qui dit qu'il faut donner pour recevoir, qui dit bah, que la, l'important c'est les Beatles, c'est All You Need Is Love, love, que l'amour est important. C'est un mec qui est au milieu d'une grande soirée avec les plus grandes célébrités sur la planète, il sortait son fromage et chacun repartait avec son fromage parce qu'il y avait des vaches. Ouais. C'est son fromage. Donc un mec très authentique. Okay. Et quelqu'un qui a toujours su s'inspirer du moment. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait, pourquoi ça a fait un bond comme ça? Je crois que c'est parce que il a inventé ses enfants, typiquement, je sais pas, moi, il y avait une star du rap, machin, il dit, son fils, bah, allez, on va l'appeler, on va faire une collab avec lui. Il a fait toutes ces collabs et tout, avec les célébrités, avec les artistes, les chanteurs, etc., qui étaient assez nouveaux. Personne n'avait fait ça avant.
Très spontané,
Okay. Et surtout, rester dans la hype et rester avec ce qui se faisait au moment, alors que les vieilles maisons horlogères sont restées, n'étaient même pas, bon, ça arrive maintenant, mais n'avaient pas les réseaux sociaux. Il a toujours voulu être à la pointe du projet. Okay. Et pourtant, c'était pas un jeune monsieur.
C'est ça.
À cette époque-là, il avait peut-être déjà 70. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui était toujours dans ce côté. Il faut vivre avec son temps. Les jeunes générations, c'est eux. Un directeur artistique, tu prends un directeur artistique, c'est pas un mec qui doit piloter par rapport à ses idées. Il faut qu'il s'imprègne du monde et des autres. Et j'ai les mêmes ADN. Moi, j'écoute les fans. Je peux faire parfois des sculptures parce que les fans me l'ont demandé. Et tu sais, quand t'as 50 000 personnes qui te demandent un truc, et ben, peut-être qu'ils ont raison aussi. Donc, il faut écouter. Donc, il était très à l'écoute de son monde. Et puis, pour plein de trucs, avec des valeurs vraiment incroyables. Anecdotes avec Jean-Claude qui sont folles.
La rencontre avec Jean-Claude, alors, comment ça se passe?
La rencontre est très drôle. C'est une anecdote. La rencontre, c'est que à la base, en fait, je commence mes sons, je commence à faire DJ et je cherche un feat. Et j'ai un pote qui s'appelle Raphaël Aflelo, qui est associé avec David Guetta dans My Love Affair. Et je vais le voir parce qu'eux, ils ont évidemment avec David, tout ça, ils ont plein de feats, etc. Donc je lui dis, puis je passe l'après-midi là-bas. Il me dit, tiens, c'est marrant. En ce moment, David est très proche de Jean-Claude. On fait une montre avec Tag pour Guetta. Guetta, Tag ER, machin. Et il me dit, bon, bah, dans ces cas-là, tu sais quoi, je vais envoyer un message à Jean-Claude. Bon, je trouve que c'est une blague. Pour moi, Jean-Claude, c'est comme tu dis, je sais pas, c'est le président de la République.
C'est vraiment sommité, quelqu'un.
Il envoie un message, bon, il envoie un message, tant mieux, quoi, mais on s'en fout un petit peu, quoi. Et vers 17h30, je m'en vais, il me dit, tiens, il m'a répondu.
Incroyable.
Déjà, moi, j'y crois pas.
Ouais.
Je dis, c'est pas vrai, il m'a pas répondu. Et il me dit, tiens, oui, on va faire avec Tag ER une montre avec un Kong.
Incroyable.
Alors, moi, je suis tout excité, j'ai dit, c'est pas vrai.
Un gosse.
Le truc et tout, c'est pas possible et tout. Bon, bref, ça se passe, pour 20 000 raisons. À la finale, la numéro 2 du groupe dit qu'il a signé trop de collaborations.
Okay.
Et finalement, il donne pas suite au projet.
Okay.
Il donne pas suite au projet. Donc, moi, je suis super énervé. Mon partenaire me dit, on aurait dû demander moins d'argent alors qu'on n'avait pas demandé un truc de ouf. Hein. Moi, j'aurais fait même gratuit, hein. Mais à l'époque. Mais du coup, bon, bref. Et donc, grosse déception. Et quelques années plus tard, je me retrouve assis à un dîner à la montagne. Pour une marque, et il y avait Jean-Claude et moi à côté, que je connaissais pas, que je savais pas à quoi il ressemblait, j'avais jamais vu de ma vie. Et on discute, et puis on se fait chier à ce dîner, et on se lie d'amitié. Et il y a une grande amitié qui naît, et c'est peut-être 2 ans après qu'il dit, mais enfin, fasse une montre avec Zénith, avec machin. Et bon, bref, et puis finalement, on arrive à faire une présente le CEO de Hublot, et on fait une montre avec Hublot. Et donc, le truc, il est vraiment drôle. Mais tout, c'est très long à raconter. Il y a plein d'autres anecdotes qui peuvent, quelqu'un avec une grande générosité, un grand cœur.
C'est ce que je voulais dire, c'est que cette proposition-là, il fait les choses avec le cœur, en fait, Jean-Claude Duvers.
Mais même à un moment, il y a un article que je voulais dans une marque de luxe, qui est impossible à avoir.
Okay.
Et je lui dis, bah, t'as des connexions, mais comme ça, par hasard. Alors il rentre à Genève et il m'envoie un message, il me dit, tiens, j'ai eu ton article. C'est une blague, c'est pas vrai. Il me dit, je l'amène demain. Je dis, mais tu vas pas prendre l'avion pour venir demain à 11h. Si, je viens demain, je l'amène demain à 11h.
Incroyable.
Non, je veux dire, bon, c'est mon aîné, je vais pas, enfin, tu vois, j'ai un respect, non, c'est pas possible. Ah non, je viens demain à 11h. Ok, bon. Ok, il vient à 11h et je lui dis, bon, bah, écoute, merci, franchement, c'est génial et tout. Comment je fais pour régler la facture? Enfin, tu vois, mais voilà, c'est écrit sur le truc. Et je regarde, il me dit, pour mon ami Richard, il m'offre le truc.
Cadeau incroyable.
Voilà, un truc qui a vraiment une grande valeur. Très compliqué à avoir, qui a une grande valeur. Je veux pas faire de com, mais mais t'as compris, mais le truc. Donc, une générosité, je veux dire, sans borne et voilà. Donc, voilà.
Qu'est-ce que tu gardes de Jean-Claude Biver en conseil, en valeur, en...
Alors la valeur du travail, parce que on a partagé ça aussi. On avait quand même beaucoup de choses, si tu veux, en commun. C'est juste qu'après ça m'a donné raison, m'a donné l'envie de continuer dans le même sens. Le respect, évidemment, des valeurs très importantes, le respect des jeunes aussi, des jeunes générations, la transmission, le partage. Aujourd'hui, moi, j'ai dans mes équipes, on a un vrai partage et aujourd'hui, moi, je leur donne un pouvoir de décision, même. moi, c'est pas le nombre d'années, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment ton inspiration. Comment aujourd'hui, parfois, je fais avec mes équipes, et elle me dit, je leur dis, ah, mais non, il faut faire comme ça. Elle me dit, ah, ben non, regarde, Richard, faites ce que vous voulez, c'est vous qui démerdez, c'est vous qui paierez les pots cassés si ça fonctionne pas. Mais je leur fais cette confiance. Et chez moi, j'ai pas de bureau. Chez nous, on est beaucoup de personnes, mais j'ai pas un endroit où je me, c'est vraiment, on est en mode vraiment avec, donc ce partage est important. L'amour, parce que All You Need Is Love, c'est son vrai truc à Jean-Claude. Et c'est vrai que l'amour, c'est important. Sans amour, je crois qu'il y a pas de chose. La sincérité, l'amour, la sincérité, c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes. L'authenticité, la fidélité, la parole, la parole, c'est l'honneur, la parole, ça, c'est des codes qui se perdent et que Jean-Claude, tout ça, c'est des choses qu'il a, et la simplicité. C'est quelqu'un, moi, qui m'a fait des trucs. Je suis invité, moi, la première fois chez lui, je suis dans le jardin en Suisse, et il est capable de se lever d'aller pisser dans les roses, quoi, tu vois. Mais, je sais pas où mettre, moi, j'étais... C'est juste incroyable. C'est-à-dire que l'histoire du fromage, pareil.
Quoi, ouais,
monde, c'est vraiment... Et c'est quelqu'un... tu vois, j'étais avec Martin Garrix, par exemple, qui est une méga star. Tous ces gens-là l'adorent. Et Martin Garrix, quand il a connu Jean-Claude, vers 18 ou 19 ans. Et tout le monde, on se parle du fromage et tout. Et une fois, j'ai rencontré Partefa, je rencontre Garrix. Mmh. Et on est ensemble à un dîner, etc. Et on appelle Jean-Claude. Ah, the cheese, beaver, Jean-Claude.
Enfin, incroyable.
Il a une connexion avec des gens de toutes les générations.
Et ils retiennent tous cette simplicité chez lui.
Exactement. Et en fait, j'ai essayé de recréer ce qu'avait fait Jean-Claude.
Okay.
Quand tu viens chez moi au bureau, on a un studio de musique en face parce que je fais de la musique, et tu peux rencontrer chez nous Mike Tyson. Le lendemain, tu peux rencontrer un animateur télé, Teddy Riner, Weshden. Enfin, un médecin, un politique, c'est la mode. Enfin, mais tu vois, c'est pour tout le monde. Il y a pas de, c'est vraiment le multipote et tout le monde fréquente tout le monde.
C'est des lieux de vie.
C'est des lieux de vie, voilà.
Okay.
Jean-Claude, il tenait beaucoup à ce qu'il y ait ces mélanges. Parce que c'est vrai que c'est rare, les gens du cinéma, ils se mélangent pas avec les gens de la musique. Les gens de la musique, un peu plus maintenant, mais c'est compliqué.
C'est vrai.
T'es dans des cases, t'es à la télé, tu fais une série, t'es dans une série, bah non, t'es pas un acteur, tu peux pas être t'es pas un vrai acteur parce que tu joues dans des séries télévisées.
C'est vrai.
Enfin, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse maintenant aux US. Mais, bon, voilà, parce que ça paye. Mais bon, voilà, c'est l'argent. Non, mais voilà. Et donc, il y a vraiment des valeurs qui sont incroyables, qui m'a pas transmise, je les avais déjà un petit peu, mais en tout cas qu'on a partagé, et une amitié.
C'est ce que j'allais te dire.
Tu sais que Jean-Claude, il m'a dit un truc, on a fait un portrait croisé dans Match, et il a dit un truc qui m'a beaucoup touché, il a dit, tu sais, moi, mes amis que j'ai 5 amis dans ma vie, je les ai depuis que j'ai 18 ans. Richard, c'est le seul ami que j'ai fait, les autres, c'est pas des amis. C'est le sixième ami que j'ai, machin, etc. Tu vois, donc, c'est touchant, quoi, quand un mec
fait
ça, des choses, c'est touchant, quoi.
Tu dirais que t'as beaucoup d'amis, toi?
Écoute, j'ai pas beaucoup d'amis, non. Mais je sais compter mes amis, et je sais aujourd'hui. Et puis tu sais, quand t'es dans l'adversité, quand il passe des choses qui t'arrivent dans la vie, tu te rends compte qui sont tes amis, qui sont pas tes amis.
C'est vrai.
Et les événements de la vie, et les événements qui t'arrivent, et en plus quand t'es dans un espèce d'avion comme le mien, ou d'une espèce de fusée, que tu montes, plus tu te rends compte, et plus tu prends des coups aussi, parce que moi je défraye un petit peu la chronique, parce que je dérange, parce que justement je suis pas dans une case, parce que j'ai pas suivi un cursus comme il faut, j'ai fait tout comme il fallait pas, en fait. Donc quelque part, tu te fais pas que des amis, tu fais beaucoup d'ennemis aussi, mais que je connais pas d'ailleurs, parce que la plupart des ennemis, j'aurais jamais parlé, j'aurais jamais dit bonjour.
Et ils viendront pas t'écrire.
Et ils viendront pas m'écrire non plus. Donc j'ai des amis. En tout cas, c'est des amis sincères qui s'inscrivent pas forcément dans le temps, parce que c'est des gens que parfois j'ai connus plus récemment. Moi, un ami, je peux te rencontrer aujourd'hui, me dire, lui c'est mon ami, je sais que dans 10 ans, c'est toujours mon ami. Et c'est souvent ça, moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est pas une relation, elle est pas forcée de se construire sur la durée. Tu sens les connexions, tu sais, c'est comme des âmes.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et quand c'est une âme qui se connecte avec une autre, c'est là où que ça se passe, et t'as une connexion, et la connexion, elle peut se faire en 5 minutes, comme elle peut se faire en 10 ans. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, tu peux avoir des gens, il y a des gens que j'ai rencontrés récemment, et qui sont des, j'ai rencontré, par exemple, un exemple, puisque c'est quelqu'un de connu, je vais en parler, Sofiane Pamart.
Ouais.
On s'est rencontrés, ça a duré, 4 minutes, on est devenus amis, on fait des trucs, et on s'appelle comme si on s'était connus depuis 20 ans. Et on partage des trucs sur nos vies, sur nos trucs sentimentaux, y a pas besoin d'être...
C'est un homme incroyable, en plus.
Voilà. Et y a pas besoin.
Ouais.
Parce que justement, c'est aussi
des
âmes, c'est des ouvertures, c'est aussi des gens bons. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de mal. Et aujourd'hui, quand tu joues des gens qui sont bons, qui sont brillants, ok, mais il suffit pas d'être brillant, tu peux être brillant, être mauvais, être méchant. Mais lui, il est brillant, il est bon, bienveillant, et il a quelque chose, il a quelque chose de divin. Je crois qu'il y a quelque chose de divin dans toutes ces personnes-là.
Ces magies-là des rencontres, j'en profite, moi, il y a un acteur que je croisais en soirée notamment, tu vois. Je sentais qu'il y avait une connexion entre nous, mais tu sais, c'était pas palpable, tu vois. Et là, à la fin de l'année, c'était le 30 décembre. Donc juste avant de clôturer l'année 2023, on s'est vu, on devait se voir une heure, on s'est vu 6 heures, je crois. Et en ressortant, j'ai appelé tout le monde en disant, ok, cet homme est mon ami, je le sais. Cette connexion-là qu'on ressentait, c'était pas du hasard. Et je suis d'accord avec toi, on peut comme ça tout de suite savoir, on match, ouais, et voilà. Non, c'est pas une question de durée. Il s'appelle Saïd Al-Alami, c'est un acteur incroyable. Il a joué dans de belles séries, il est dans 2 films qui sortent à la fin de l'année, et c'est un homme talentueux. Et on l'embrasse. Les amis, vous êtes encore là, on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like, à poser votre commentaire également, nous dire ce que vous pensez de cet épisode, nous dire aussi qui vous souhaitez qu'on invite dans les prochains épisodes d'Autour de moi. Je voulais qu'on parle d'un documentaire là qui sort dans quelques jours, première fois au musée, qui sera diffusé sur TV5 Monde, donc le 27 mars à 23h. On te voit avec... j'ai noté donc Maïva, Naël, Naomi, Thomas, Karim, des jeunes que t'as emmenés à la piscine à Roubaix pour leur faire découvrir l'art. 5 jeunes qui étaient donc très éloignés de l'art et qui ont fait
alors
donc.
Là, je me permets de t'interrompre parce que si les auditeurs écoutent ce que tu dis, ils ont dit le mec il est un peu ouf. Il emmène des mecs à la piscine. Il emmène des mecs à la piscine pour découvrir l'art.
Mais c'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que la piscine à Roubaix?
Ah, c'était ça. J'ai niqué ta...
La transition, c'est pas grave.
Pardon, désolé.
Non, mais oui. Donc, t'as emmené ces 5 jeunes pour faire leur première fois au musée. Qu'est-ce que c'est la piscine?
Alors, la piscine, c'était une piscine municipale, ouais, comme son nom l'indique, qui a été ensuite restructurée en musée. Et c'est un musée qui est complètement atypique, qui est incroyable. Et comme pour la première émission, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'aller dans ce lieu-là. Donc on a fait effectivement un casting de 5 jeunes qui sont originaires de la région de Roubaix, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de candidats, hein.
Okay.
Il y a plus de 100 candidats, je crois, qui sont présentés.
La sélection est parfaite, parce que j'ai vu le documentaire, je vous le recommande vraiment.
Ouais, ils sont incroyables.
Ils sont incroyables.
Ils sont ouf. Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai fait une projection, là, une avant-première, ouais, il n'y a pas longtemps, et les gens qui sortaient m'ont dit, ah, donc c'est eux que vous allez revoir dans les autres épisodes. Tellement ils ont kiffé les
ouais,
les
on veut les revoir, d'ailleurs.
Ils veulent les revoir dans d'autres épisodes. C'est Martine à la campagne, Martine à la mer, Martine à la, donc c'est assez drôle. Mais c'est pour voir, c'est que ça a fonctionné.
C'est vrai.
Et donc, je les ai fait réagir, donc je les ai amenés à la piscine, et je leur ai demandé s'ils avaient leur maillot de bain, et pas tous les avaient, mais, et en tout cas, je les ai fait réagir devant 6 œuvres différentes.
Ouais.
Et ce qui est fou, c'est que ces jeunes, on les a pas pris par hasard. Mmh. On a pris des jeunes qui étaient hermétiques à l'art,
ouais,
hermétiques au musée, qui avaient aucune envie de me...
C'est pas pour moi.
Aucune envie de... Et qui ont dit, clairement, même au début de l'épisode, Richard, il me fera pas changer d'avis, quoi. C'est no way, quoi. Il n'y a pas de cas où ça va changer.
Challenge, donc.
Gros challenge. Et du coup, ça a été, l'évolution, elle est juste incroyable, et tu les vois changer et tourner complètement.
Ouais.
C'est un truc de fou. Et à la fin, il y en a une qui pleure. Enfin, c'est les émotions. Même moi, je suis surpris. Et pourquoi ça a fonctionné? Je pense aussi parce que je me suis mis au même niveau qu'eux. J'ai pas été en tant que, il y avait une conservatrice de musée, ouais, qui était là pour expliquer. Mais moi, je trouvais que c'était comme, moi, j'ai le même regard qu'eux. Je dis, ouais, enfin, tu vois, on est, et donc, j'ai vraiment intégré le groupe. On est devenus des potes du moment. Et donc, du coup, on se parlait comme s'ils se parlaient. Pareil, tu vois, comme si on se connaissait.
Ouais,
c'est
ouais,
ça qui a fonctionné. La magie, elle opérait pour ça, parce que j'ai les codes. J'ai les mêmes codes qu'eux. J'ai des enfants du même âge. Donc, du coup, ça me permet de connaître. Je suis aussi, bon, comme t'as dit dans la musique, dans le milieu du rap et tout. Donc, j'ai certains codes pour parler avec certains. Et du coup, c'était simple, c'était toute une simplicité, et les réactions, ils ont eu des trucs très pertinents.
C'est vrai.
Très pertinents.
C'est vrai.
Un truc d'ailleurs qui m'a beaucoup amusé, qui m'a beaucoup interpellé, c'est au moment où on présente un nu d'époque, hein, t'imagines. Et t'as un des jeunes qui est choqué par la nudité, etc. Alors que le mec, j'imagine qu'il voit des films porno sur des trucs genre avec les accès, avec aujourd'hui le trash qu'on peut avoir, qui nous est présenté par la société de maintenant, qui est un peu dommageable d'ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça aussi. C'est malheureux, mais il y a des progrès, mais aussi des régressions par rapport à ça. Et donc surtout un jugement de la femme ou de la sexualité qui est complètement erroné. Et le mec qui est quand même
la nudité dans l'art, ça l'a choqué.
Ça a choqué. Quelque part, c'est comme si c'était dans un lieu saint, quoi. Quelque part, le musée pour le saint. Donc, le fait de désacraliser aussi, je sais pas si t'as remarqué,
mais
je
trouve
ça très intéressant.
Non, c'est vrai.
Il y a plein d'autres remarques, c'est incroyable.
T'as une belle formule aussi que tu dis au début du doc. Tu dis qu'ils vont voyager, que les musées et les expositions servent de voyage, là où les galeries servent à vendre, d'ailleurs.
Exactement.
Tu vois? Donc, pourquoi avoir fait ce choix aussi de t'aurais pu, par exemple, leur montrer qu'une seule et unique œuvre et tu vois, ça serait arrêté là, tu vois.
Ouais.
Pourquoi cette volonté de ce petit voyage-là?
Ouais, alors, je tiens à faire une toute petite précision. Dans les galeries, tu vois, par exemple, que nous, on fait aussi.
Je tire un peu sur les galeries alors que t'en as, désolé.
On fait aussi voyager. Non, mais parce que nous, c'est ce qu'on fait. Nous,
oui,
c'est la porte ouverte, c'est gratuit, on explique, c'est un lieu de vie. Nous, on fait des lieux de vie.
Oui.
Après, c'est accessible à tous. Mmh. Vraiment, moi, je me bats pour l'accessibilité à l'art. Je suis aujourd'hui critiqué, dézingué parce que j'essaie de démocratiser l'art. Et que c'est pas politiquement correct. Mmh. Mettre de l'art dans des émissions de télé, c'est pas possible. Mmh. Voilà.
On en parle juste après.
Voilà. Bon, bref. Alors, en tout cas, un voyage. Bah oui, parce que t'imagines. Je sais pas, il y a un tableau, à un moment, on voit un tableau de Roger Coge.
Mmh.
Coge, Roger, ça s'appelle, je sais pas, Rémi.
Roger, j'ai retenu Roger.
Roger, bon, Coge. Et, Coge. Et c'est un combat de coq.
Mmh.
Et c'est presque une photo, on dirait. Tu vis dans le combat. Tu vois la violence des combats, les trucs qui traînent, les parieurs, tu sais, avec l'argent, mmh. Qui sont sales, l'alcool.
Tu sais, ça laisse parler l'imaginaire après.
C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc. Donc, quelque part, tu voyages déjà dans un autre siècle. Dans un autre, et parce que les gens me disent, ah, ça existe des combats de coq. J'ai dit, encore aujourd'hui, tu vois, en Thaïlande, les combats de coq. Là, on en a pas en France, c'est interdit, mais ouais. Donc tout ça existe encore. Donc si tu veux, tu voyages dans des pays, là, tu remontes dans des siècles, tu vas dans d'autres continents. Donc oui, c'est un vrai voyage, bien évidemment.
Et ce travail de transmission pour toi, il est important. Est-ce que d'ailleurs, tu penses que il devrait avoir une place un peu plus grande pour l'art à l'école, notamment?
Alors. Oui, le travail de transmission, c'est surtout qu'il est mal fait, le travail. Moi, c'est ce qui me permet de critiquer.
Ouais, ouais, ouais.
Il est pas mal fait d'aujourd'hui, c'est pas un problème du moment.
Problème de toujours.
Ça a jamais été bien fait. Aujourd'hui, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, ça me gonflait quand vous voulez me faire un truc culturel. Mmh. Ah non, qu'est-ce qu'on va se faire chier? On sèche, on n'y va pas. Parce que ça fait chier tout le monde. C'est pas, ah ouais, chouette, on va y aller. C'est juste de la pédagogie, c'est comment t'amènes ça. Regarde cette émission, elle en est la preuve et j'en suis content, j'en suis tellement fier. Parce que même moi, les programmes sur l'art, ça m'emmerde, c'est boring.
Tu vois,
2 minutes, t'en peux plus, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de programme.
C'est vrai.
Non, mais moi, je mets les auditeurs, n'importe qui, de me montrer un programme qui est pas chiant sur l'art. Ça n'existe, j'en ai jamais vu. Ça n'existe pas. Alors, moi, d'être passionné d'un artiste, et oui, par exemple, t'es passionné de Warhol, tu vois un sujet sur Warhol, ça va être intéressant parce que c'est ton truc. Mais un truc généraliste qui va te parler, ça existe pas.
C'est vrai.
Donc là, si tu veux, je pense qu'il y a un vrai. Et puis, je sais pas, te rappelle-toi, tes cours de dessin, tes cours de machin, souvent les profs qui t'enseignaient ça, ils ont le profil de l'emploi, quoi.
Si tu savais.
C'est du fat, quoi. Tu vois,
je savais, j'étais si nul parce qu'en fait, j'étais pas intéressé, tu vois. Ça m'intéressait pas.
C'est vrai.
Sur
les profs, ils ont pas la pédagogie. Il y a un moment, faut amener, c'est une activité comme une autre. Bah, c'est comme le sport. Le sport, c'était pas, pour certains, c'était sympa pour ceux qui étaient sportifs. Moi, je l'étais. Mais pour 80% de la classe, ils se faisaient chier.
C'était chiant, bien sûr.
Parce qu'il faut faut intéresser. Mmh. C'est pas, tu vois, ce que là, il y a un moment, il y a une manière de faire. Le maths, les français, t'as pas le choix, en fait. T'apprends et tu fermes ta gueule. Maths, anglais, espagnol. Et puis les autres, c'est des matières un petit peu de cinquième plan, de sixième plan, de septième plan. D'abord, qui comptent pas pour la note générale. Mmh. Donc forcément, c'est pas valorisé. Donc c'est pas valorisé dans ce que ça, parce que si aujourd'hui, tu te disais, le sport ou l'art, c'est coefficient 20. Je peux te dire,
tout le monde se bouge rien.
Tout le monde, ça va se bouger.
Et les profs aussi.
Et les profs aussi. Et on prendrait peut-être des choses. Donc, il y a plein de trucs. Il y a l'effet que la non-valorisation de ces activités et aussi la manière de le faire. Tu vas dans un musée, tu vas au musée du Louvre avec tout le monde, avec un guide qui t'explique.
Ouais.
Tu te fais chier.
Bien sûr.
On s'en fout, ça s'intéresse pas. Il faut apprendre aux jeunes, justement, d'autres choses. Et quand on voit le combat, on a vu la nudité, on a vu le combat. Mmh. C'est intéressant. Ça vivait. Les choses, les trucs qui vivaient.
C'est vrai.
Moi, j'ai jamais vu un mec qui te commente les musées ou avec les haut-parleurs où ça vit. C'est chiant. L'artiste a voulu dire ça, a voulu faire ça. Et ferme ta gueule, écoute ce qu'on a à te dire. C'est ça. Et là, il y a la liberté. Et en fait, moi, j'en avais rien à foutre de ce qu'avait fait l'artiste. C'était bien pour qu'elle explique, mais ce qui était intéressant,
leur réaction, ce qu'ils ressentaient.
C'est l'émotion. Mmh. Et souvent, malheureusement, on prive les jeunes d'émotion parce que on donne des explications qui viennent pourrir l'émotion.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est archi intéressant.
Manque de liberté.
Je vous recommande ce doc. Vous avez toutes les infos en description. De toute manière, on avance avec la deuxième personne dont tu voulais nous parler. Un grand animateur de radio, de télévision, que moi j'ai croisé dans mon parcours à la télévision, un homme incroyable, Bernard Montiel.
Ouais, très 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 marrant. Tu vois, même à l'époque, tu sais, quand je parlais de Bernard Montiel, j'avais peur de parler parce que bon, c'est clivant aussi.
Ouais.
De la même manière, c'est clivant, mais bon.
C'est Bernard Montiel, vidéo gag. Voilà.
Vidéo gag. Donc, voilà. Mais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, aidé au début quand j'ai commencé, en tout cas, par rapport dans le monde du show business, qui est un monde qui est compliqué un petit peu à percer, et qui est quelqu'un qui a une grande fidélité, qui a des valeurs, voilà, on retrouve toujours, moi, le problème des valeurs, de l'honnêteté et tout ça, et c'est des trucs qui me
la parole donnée aussi, Bernard.
La parole donnée. Ah oui. Bernard, tu lui dis, t'as rendez-vous à 18h03, à 18h02, il est là, quoi. Et ça, t'as jamais vu ça nulle part.
Ouais.
Et donc, mais c'est un côté, il y a fidélité à quelqu'un qui est fidèle, en amitié, en amour. C'est des valeurs qui sont très importantes, et peu importe, en fait, quel est ce qu'il représente aujourd'hui. Mais, et puis.
En quoi il t'a aidé, Bernard?
Écoute, c'était. Alors, il m'a aidé parce que c'est vrai que c'est lui qui est le premier qui m'a emmené dans des événements un peu mondains, des événements showbiz, etc. Tout simplement. Donc, et puis avec, je me rappelle quand personne savait qui j'étais, il venait me prendre en photo avec lui. Quand il y avait les magazines, il disait, viens, je te mets en photo. Et tout, il m'a tout le temps pris avec lui, etc. Un peu comme un espèce de frère ou de père, ce que tu veux. Je vais pas dire père parce qu'il va râler.
Ouais, non, de frère.
mais voilà, c'était quelque chose qui était bienveillant. Moi, je me rappelle. Je vais te raconter une anecdote sur Bernard qui m'a beaucoup marqué. On avait il travaillait pour une radio et il me dit tiens ça serait bien que je sortis un livre en 2012, il me dit ça serait bien que tu présentes le livre à Carla Bruni parce qu'elle avait un gros album de chansons etc et ça va lui plaire et c'est bien que tu puisses éventuellement lui offrir et que tu puisses parce que c'est important c'est important et il recevait donc dans cette émission Carla et c'était dans un hôtel qui était tourné hôtel un truc et Carla c'était quelqu'un à l'époque c'était très important je pense que
c'est la fin du mandat Sarkozy à ce moment-là c'est la première dame elle vient de sortir un album
un truc voilà. C'est assez chaud et donc j'arrive moi avec il me dit va j'arrive au truc il me dit va chercher retourne chez toi chercher le bouquin parce que à la base c'est pour me la présenter. Je suis là, donc j'attends comme ça dans la salle d'attente, etc. Et t'as le patron de la radio qui dit à Bernard, non, Richard, il n'y a pas de cas, il ne va pas avoir grave, c'est hors de question, machin, etc. Il n'y a pas de cas. C'est son patron, son employeur, qui le paye à la fin du mois.
Mais Bernard,
voilà, il n'y a pas de cas, machin, etc. Et il me dit, tu restes ici. L'autre lui dit, non, mais tu peux partir. Je lui dis, non, toi, tu m'as dit, tu restes ici. Donc, elle finissait une interview, parce qu'elle faisait des interviews avec plein de gens. Donc, elle recevait, c'était à Saint-James, quoi, l'hôtel Saint-James. Okay. Des gens. Et donc, donc là, c'est terminé. Ils disent, bon, ben, voilà, vous pouvez venir pour faire votre interview. Il y avait l'autre journaliste qui partait, elle, Marie-Claire, j'en sais rien qu'est-ce qui était avant. Bon,
Bernard.
Et Bernard, machin, etc. Il me dit, tu viens. Et l'autre qui prend un verre, il vient tout, il commence à faire des gestes, il gestique, il n'y a pas de cas. Avant de commencer, il m'amène à Carla, il me présente, il dit voilà le livre, voilà mon ami, machin, etc. Une fois que j'ai fait mon truc, elle était très contente, elle a feuilleté les pages, on a parlé peut-être 10 minutes. L'autre, il devenait dans toutes les couleurs, il devenait vert, jaune. C'est devenu un pote aujourd'hui l'autre, hein, mais il est devenu vert, il devenait dans toutes les, il se transformait, il y avait de la fumée qui sortait de partout. Et j'ai dit putain, le mec, il a des couilles.
Ouais.
Franchement, tu peux dire ce que tu veux, mais il a des couilles.
Ouais.
On peut critiquer.
Peur de rien.
Voilà. Il a des couilles, il dit machin. Donc, bon, après, ça, son truc n'est plus à faire, machin. Donc voilà, c'est un côté, voilà. Après, tout le monde a des qualités, des défauts. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup touché. Et jusqu'à aujourd'hui, on reste encore amis. Voilà. Et c'est très drôle. Et
c'est un homme incroyable, Bernard.
Ouais, puis il y a un humour, et puis moi je suis toujours séduit par la fidélité, par l'honnêteté, par la franchise, par les gens qui le respect, enfin voilà, il y a des valeurs, ils s'entendent très bien avec mes enfants, moi, ils ont le charrie, hein, ils se foutent de sa gueule, enfin c'est vraiment quelque chose de d'assez particulier.
Tu vois, tu parlais de Jean-Claude Bizet, tu parles de Bernard Montiel, il y a quelque chose qui marque chez les deux, c'est que vraiment ce n'est pas une histoire d'âge, tu vois. Vraiment pas.
Ah non, pas du tout.
Parce que moi, Bernard, je t'ai dit, juste avant les émissions, on se vannait, on se charriait. Très bon charrieur, hein, Bernard Montiel. Ouais. Il faut être gainé en face. Et c'est des mecs comme ça qu'on kiffe, en vrai. Donc merci de nous avoir parlé de Bernard. Il y a un truc que je voulais aussi souligner chez toi, Richard, c'est que même si aujourd'hui, ça c'est pas à toi de le dire, c'est à moi de le dire, mais je considère que t'as réussi dans ton game, tu continues de rêver. Et c'est rare, en vrai. Et surtout, je trouve que t'es hyper reconnaissant aussi de tout ce qui t'est arrivé. Et ça aussi, malheureusement, c'est rare. Aujourd'hui, on voit tes œuvres. Je l'ai dit, j'ai vu que t'avais fait une collab avec Disney. Tu vois, on les voit dans des grandes émissions, que ce soit Arthur, Hanouna. On les voit en plein Paris. On peut donc dire que tes œuvres sont devenues populaires. Et je sais que populaire, dans la bouche de beaucoup, c'est un gros mot. Alors que moi, je trouve que c'est un mot fabuleux, tu vois. Est-ce que toi, ça te dérange si on dit que tes œuvres sont populaires ?
Pas du tout. Moi, je suis un artiste populaire, bon producteur, mais moi, j'adore. Moi, c'est les vrais gens qui m'intéressent. Moi, je m'en fous des élites de 3-4 personnes qui comptent pas. Moi, c'est
les petits critiques.
Oui, bah, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité. Tu sais, je fais de la musique, comme on en a parlé tout à l'heure. J'ai un one man show aussi. Mmh. J'ai la Comédie de Paris jusqu'à la fin de l'année. J'ai fait l'Olympia. Mais moi, c'est ça la récompense, c'est de voir ces gens, les gens, monsieur, madame, tout le monde, et qui viennent à la fin du spectacle, qui ont rigolé, qui sont contents, qui prennent une photo avec toi, que tu passes du temps avec eux. C'est ça le vrai truc. J'ai fait une grande exposition dans le bassin minier parce qu'on me dit que j'avais exposé à Paris, à Nice, mais j'ai exposé dans le bassin minier à Lens. On avait refait vivre une mine de charbon avec une région qui a souffert avec ces gens-là et ils ont tellement de chaleur dans, tu sais, c'était Enrico Macias qui disait pareil des gens du Nord, mais
les gens du Nord.
C'est vrai, c'est des gens incroyables avec des cœurs gros comme ça. J'étais à l'époque où j'y étais, Lens était en Ligue 2, c'était même pas en...
Alors qu'aujourd'hui
voilà, mais ils m'ont mis le maillot, un maillot de les 100 et or, il y en a été des trucs. mais il y a une telle puissance, si tu veux, émotionnelle, d'amour, de partage, qui est tellement incroyable que je vais rester un quart d'heure, je suis resté toute la journée à parler avec les gens, à faire des choses.
Les vrais gens.
Non, voilà, et ça me passionne. Mais c'est tellement plus nourrissant d'avoir des vrais gens en face que des gens finalement qui sont fake parce que ils sont amis avec toi parce que tu es qui tu es ou etc etc. Moi ce que j'aime c'est la sincérité et c'est la vérité. Et de toute façon ce qui reste à la fin c'est la vérité. Tout le reste ça s'envole.
C'est vrai.
Donc bon oui populaire mais je suis très heureux d'être populaire.
Magnifique.
Et j'assume cette popularité et c'est ce qui me vaut aussi tous ces critiques et tous ces problèmes. Mais je m'en fous.
Ouais. Ça apporte le meilleur comme le mauvais avec.
Oui, et puis tu veux que je te dise. Je suis gagnant dans le calcul.
Okay.
Tu sais, quand tu fais un article sur un magazine de, je vais pas faire de la pub, qui me défonce sur deux pages, où il y a 3000 personnes qui vont l'acheter ou lire, ou même pas, ou qui vont lire, ou je sais pas combien, et que je fais 10 pages dans un magazine, Paris Match, je vais citer, et, ou qui à l'époque, en tout cas, faisait 900 000 ou 1 million de, ou 1 million de lecteurs, bah, moi, ça me va, hein.
Ouais, non, c'est vrai.
Pas très grave. Alors, ce qu'il y a, le problème, c'est qu'effectivement, ces tout petits pourcentages sont très puissants parce que c'est ceux qui dirigent, c'est ceux qui font un
peu. Ils font de l'entre-soi, voilà. Ils parlent qu'entre eux, mais ils sont puissants.
Et j'espère que d'ailleurs Rachida Dati, maintenant qui a pris ce nouveau départ, qu'elle dit d'ailleurs, qu'elle a annoncé haut et clair que l'entre-soi c'était terminé, qu'il fallait mettre un petit.
Il y a du travail. Hein.
Il y a du travail, mais bon, apparemment elle prend le taureau par les cornes et j'espère qu'elle va réussir à faire ce que personne n'a jamais fait.
On le souhaite pour la culture. Voilà. En troisième personne, t'aurais pu nous parler de plein d'autres personnes.
Moi, j'ai du stock.
T'as du stock, mais t'as voulu nous parler de tes enfants.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça, ce choix, fabuleux. Pourquoi? Alors, comment s'appellent tes enfants déjà?
Alors,
comme ça, on met des noms sur.
Johan,
okay.
Julien,
okay.
Inès et Jonathan.
Ok.
Trois garçons et une fille.
Tes enfants, donc, bah, si tu veux nous en parler, c'est qu'ils comptent pour toi,
ouais,
puisque jamais.
Bah, on en a parlé un petit peu au début, parce que on parlait des gens qui m'ont soutenu. C'est vrai que j'ai fait il y a pas très longtemps une pastille, sur TF1, où il y avait, c'est un truc que t'as déjà vu, qui s'appelle Merci.
Oui.
Et donc, justement, eux aussi, j'ai fait Merci.
J'ai vu.
Tu l'as vu, j'ai dit merci à mes enfants. Mais parce qu'en réalité, ils ont toujours été là pour moi, ils ont toujours compté pour moi, ils ont toujours, m'ont soutenu dans toutes mes démarches, ils m'ont accompagné partout. J'ai fait, quand j'ai eu mon premier son en 2016, j'ai fait Bercy, j'ai fait le Zénith avec Eva et Simon. Ils sont venus avec moi sur scène. Enfin,
incroyable.
Je les ai accompagnés partout. Ils ont connu, si tu veux, toutes ces années même où on était, je sais pas, à dormir à 5h du matin dans les trucs. Ils ont vraiment participé. Alors, j'étais beaucoup critiqué pour ça de par les parents des autres, mais finalement le résultat, et tu pourras tester tous les gens qui les connaissent, ils ont vraiment cette ouverture. Ils sont pas fans. Ils sont connectés avec leur monde, et c'est une vraie réussite. Et une simplicité, le respect, toujours respecter les gens, quelle que soit ta catégorie professionnelle, vraiment sociale, il faut vraiment, et donc il y a ce respect et tout, c'est toujours ces valeurs là que je leur ai pas appris en fait, parce que je leur dis mais c'est parce que tu as bien éduqué, j'ai pas éduqué, ils ont juste regardé,
ils ont grandi avec, donc
et il y a pas très longtemps pour mon anniversaire ils m'ont fait une chanson incroyable en reprenant la chanson de comment il s'appelle, mon vieux de Guichard.
Et
ils l'ont remis à la sauce et c'était très touchant, et ma plus belle récompense c'était ça, parce que ils ont matérialisé ce qu'était notre relation, et j'ai trouvé que c'était une belle récompense. Voilà. Et donc c'est une présence, et c'est aussi une intelligence, une forme de ma fille qui est très mature, qui a une vraie vision, qui vient d'ailleurs, qui bosse avec moi depuis, qui chante, fait de la musique, mais en même temps qui bosse un peu avec moi et qui est très axée sur ce qui se passe aujourd'hui.
C'est comment travailler avec sa fille?
Oh, ben on se voit pas beaucoup, mais parce que on n'est pas tous au même endroit, mais c'est génial, parce que elle a habité jusqu'à maintenant avec moi et elle m'a quitté pour aller prendre un appartement juste en face, donc c'était un peu, mais elle m'a dit en compensation je viens bosser avec toi.
Ok. Donc, du coup, c'est un bon deal.
Et on est très très liés liés. Aujourd'hui on fait du sport tous les week-ends ensemble, donc c'est vraiment des êtres qui comptent vraiment, qui sont très très importants. Et j'avais très peur moi, un peu plus jeune, parce que je voyais, tu vois, tu regardes par rapport à tes parents, etc., et que finalement, il y a un moment, tu t'envoles et tu te dis, de toute façon, c'est clair, quand on est parent, on sait très bien que nos enfants, nous aimeront jamais comme on les aime. Les parents aiment toujours plus.
C'est
la loi, c'est comme ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, si tu veux, même si c'est vrai, tu sens qu'il y a cet amour qui est tellement fort et tellement profond et tellement existant. Alors je prends beaucoup de place aussi, mais il y a quelque chose de particulier, et donc qui me rassure, parce que j'étais très inquiet de les perdre. Voilà.
Ok. Waouh, c'est fort ce que tu dis.
Ouais.
Est-ce que tu leur as inculqué aussi ce droit à rêver, cette importance de continuer à rêver encore et toujours, de croire en ses rêves en tout cas?
Bien sûr, bien sûr. Je les ai poussés. Bah, typiquement, tu m'en parlais de ma fille. Elle est venue me voir. Elle a fait une licence de droit. Mmh. Et après, bon, elle a marre de cette licence de droit. Elle a dit, bon, bah, je vais bosser, je vais faire un truc, etc. J'ai dit, mais c'est ça que tu veux faire? Elle me dit, non. Elle me dit, je voudrais faire de la musique. Elle me dit, ouais, mais bon. J'ai dit, bah, écoute, tu sais, ma fille, t'as 20 ans, 21 ans. Tente maintenant. Donne tout. Ça marche pas. Au moins, t'auras essayé. T'as une licence et tu seras toujours temps de travailler. Et puis, t'as un père qui est là, qui peut t'aider. Donc, c'est pas ce que j'ai eu moi. Donc, profite de ce que j'ai pas eu moi. Donc, et du coup, elle s'est lancée. Et du coup, en plus, elle est douée. Elle travaille avec 3 producteurs, dont des Américains. Et,
magnifique.
Et elle a un truc. Voilà. Donc, je pense que ça devrait le faire. Mais du coup, voilà.
Qu'est-ce que tu leur souhaites à tes enfants?
D'être heureux, hein, tout simplement. Enfin, okay. Il y a que ça qui est important, en fait. Tu sais, aujourd'hui, même quand je souhaite des choses aux gens, que ce soit pour les anniversaires, pour les années, ou etc., c'est vraiment l'important, c'est le bonheur, c'est être heureux. Mmh. La santé, bien évidemment, mais ça va de soi.
Oui.
Limite, ça se souhaite pas. Enfin, tu peux le souhaiter, mais je veux dire, à part ça, qu'est-ce qu'il faut, c'est être heureux dans sa vie? La réussite, c'est le bonheur.
Le bonheur, l'épanouissement, le reste.
Mais.
Tout découle après.
Si t'as le bonheur. Tout ça existe.
C'est vrai.
Tu peux pas être heureux si t'es pas épanoui. Tu peux pas être heureux si t'es
vrai,
si, t'as
vrai,
si t'as pas d'amour avec les gens. Tu peux pas être si t'es pas aimé. Donc le bonheur, c'est le maître mot, en fait. C'est ça, la vie. Alors évidemment, c'est compliqué qu'il soit tout le temps. Mais je veux dire, en tout cas, c'est de tendre vers ça et de vivre au présent. Et je pense que le bonheur, on peut l'acquérir comme ça.
Richard, on arrive à la fin de cet épisode.
Déjà.
Je voulais te remercier pour ta présence. Tu nous as fait un cadeau. En tout cas, je le considère tel quel. Et on a une petite tradition dans autour de moi, c'est que comme tu nous fais un cadeau par ta présence.
Ah. Un cadeau.
On a aussi un petit cadeau que je te remets. Hop là.
Merci. J'ai pas l'habitude.
Il est assez cadeau. Lourd. Voilà. Richard est un homme passionné. Tu peux l'ouvrir. Richard est un homme passionné. Beaucoup de choses lui parlent. T'as une passion en commun avec beaucoup de copains. Et c'est pour ça que je t'ai offert ce beau cadeau.
Tu peux deviner ou pas?
Ouais, vas-y.
Tu peux deviner?
Vas-y.
Bon, je pense que c'est un truc. Alors je sais pas, mais comme tu viens de, je lis un petit peu.
Vas-y.
Tu parles de passion.
Ouais.
Donc.
Et t'en as beaucoup, hein.
Ouais, j'en ai beaucoup. Mais alors moi je pense que ça peut être des objets, un objet.
Mm-hmm.
Ça peut être un objet. Ça peut être un objet de. Aussi, mm-hmm, de la street culture. C'est peut-être quelque chose qui peut être de la mode aussi.
Mm-hmm.
Qui peut être de l'art aussi. Donc.
Ça, tu brûles, hein.
Donc j'hésite entre 3 trucs en fait.
Tu brûles. En tout cas, c'est un mec que j'aime énormément. Tu peux. C'est un livre.
Ah, bah, tu vois.
De Larry. Ouais,
t'es bon. Et je voulais dire. Et j'allais dire ça. J'allais dire où sont les sneakers, ou voilà. Les montres, ou de l'art.
Voilà. La passion des sneakers de Richard.
Ouais.
Y a Larry Deadstock, qui est un homme incroyable que j'aime beaucoup. Qui est un très bon créateur de contenu, qui a des boutiques également, un passionné de la sneakers et qui essaye de transmettre aussi sa passion. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était un très très bel objet.
Ouais, génial. Moi je collectionne, si tu veux, en plus.
Bah oui.
Voilà, je collectionne les sneakers et d'ailleurs je fais une collab et j'en crée des sneakers.
Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu le réel.
Au mois d'octobre, je crois.
Okay.
Et on fait donc avec Puma. Je fais deux paires de sneakers, des crampons de foot, des chaussures de foot, deux collections de chaussures de foot, et on va aussi attaquer le basket et etc. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est dans ma passion et qu'une ça, marque me permette de faire un truc comme ça, je trouve ça génial.
Le process de création, tout ça, tout est fini déjà?
Ouais.
Ok. Ça a été un pur kiff à faire, je suppose.
Ouais, bah oui, c'est génial, c'est royal. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai pas parlé, mais c'est que j'en ai un petit peu parlé, c'est que l'important pour moi, c'est vraiment de bosser en équipe.
Ouais.
Parce que je pense qu'avec 10 cerveaux, t'es plus fort qu'un seul.
Et
donc,
d'accord.
J'ai bossé dessus, mais avec mes équipes, c'est toujours mes équipes qui sont en avant, et c'est eux qui, j'ai les créatifs, et sur tous les projets, il y a mes équipes, et donc, ouais, je leur témoigne toute ma gratitude, et je suis très content de les avoir, et je sais pas où j'en suis si j'étais pas là.
Eh ben, je trouve que c'est une très belle fin. Je suis d'accord avec toi. Comme je le fais très souvent, moi aussi, je vais saluer les équipes avec qui je bosse sur cette émission. Ils sont très nombreux. J'embrasse tout particulièrement Yara, qui travaille avec moi sur cette émission, et Nazim, qui est mon coproducteur et qui croit en moi, en ce projet fou. Richard, merci beaucoup.
Merci
à très vite. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et à liker cette vidéo. On se retrouve très très vite autour de moi, comme je dis très souvent. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt. Ciao.